Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline. Hello Céline, comment ça va ?
Bonjour Mansour, ça va très bien, merci.
Ça va super, merci beaucoup. Merci d'être là pour partager ton parcours. Ça me fait énormément plaisir que tu aies pris le temps.
Bah, merci de m'avoir invité aussi. Hein. C'est...
Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Alors, actuellement, je suis... Il y a un certain qui m'appelle Archidev. Je fais de l'architecture et du dev chez Shine, la banque professionnelle, pour les professionnels. Voilà, je fais du développement, je fais beaucoup d'archi, je fais surtout du mentoring aussi. Mmh. Je fais t'orienter vers l'apprentissage des autres. Donc voilà.
Ok, super ça. Et comment ça t'est arrivé, toi ? Enfin, comment tu t'es retrouvé dans la tech ? C'est un parcours classique, études ou enfin, c'est venu sur le tas ?
Alors moi, c'est un parcours classique, mais imprévu. C'est-à-dire qu'initialement, si on remonte dans mon enfance, c'est le moment où j'avais envie de trouver un métier, un truc qui m'intéressait, je voulais être véto. Parce que j'aimais les animaux. Sauf qu'un jour, j'ai assisté à une dissection, j'ai vu du sang, j'ai fait « c'est pas pour moi okay. ». Donc là, je me suis retrouvée et tout d'un coup, fin de seconde, je sais plus ce que je veux faire. Mon père est arrivé à ce moment-là et m'a dit « tu peux essayer de faire la même chose que lui ». Il m'a proposé du coup d'aller faire de l'électronique. Je me suis dit « pourquoi pas, on va essayer ». Donc j'ai atterri en spécialisation électronique, là, l'ancien bac F2 pour les vieux. Et du coup, je fais tout mon cursus en électronique, j'arrive en école d'ingé en électronique. Et là, tout d'un coup, je tombe face à de la théorie et de la physique quantique. Et tout d'un coup, c'était non plus pour moi.
C'est ça.
Alors, en fait, ce qui m'intéressait jusque-là, c'était vraiment beaucoup la pratique. Et le gros aspect théorique en cours, c'était vraiment plus ce qui m'intéressait. Et donc, pareil, à nouveau perdu dans la vie. Papa intervient, papa magique.
Tu as fait ça combien de temps ? Un an, les études ? Enfin,
J'ai insisté un petit peu. Je suis toujours un peu butée dans ma vie par moment. Donc, l'école d'ingé en électronique, je l'ai tenté 2 ans. J'ai réessayé l'année d'après. Ça passait pas, en fait. Définitivement. Pas. Donc, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, tu peux aller faire peut-être de l'informatique. Parce que c'était le truc qui m'avait plu, en fait. J'avais fait de l'assembleur, j'avais fait du C. J'étais contente. Et du coup, il m'a dit, tiens, je t'ai trouvé une école. Mmh. Tu peux essayer. Merci, papa. Toujours, j'ai énormément de change de ce côté-là. Donc, hop, j'ai suivi, j'ai atterri dans quelque chose que j'ai adoré. Donc, c'est là où j'ai fait mes années d'école d'ingé en informatique, spécialisée en développement. Et c'était parti.
Ok, donc tu t'es lancé dans une école. Après cette école-là, ça se passe comment pour trouver ton premier boulot ?
Alors, ça a été chaotique à nouveau, parce que à cette époque-là, ça date, on parle des années 2005-6, il y avait extrêmement peu de femmes développeuses. Mmh. Donc, on m'a fait comprendre très très rapidement que pour mon premier métier, ça serait bien que je fasse autre chose de moins technique. Et on m'a envoyé faire de la QA.
Ok.
Bon, pourquoi pas ? Je connaissais rien à la vie. C'est toujours le même principe, on va essayer des trucs.
Ça
peut peut-être m'intéresser. Donc, hop, j'atterris là-dedans, je fais des trucs intéressants, je fais du test fonctionnel et tout. Puis, je retrouve un peu de technique. On fait du test technique et puis on fait du test de performance. Puis, progressivement, ça vire à nouveau vers la technique. Bon, au bout d'un temps, je ressors de là. Là, j'ai envie de faire de la technique.
C'est ça, la théorie, c'est pas trop ça, technique.
Non, clairement, il y a un truc, je suis intéressée par l'aspect technique dans ma carrière et quand je m'en éloigne trop, je veux toujours y revenir en fait. J'essaye des trucs, Mais des fois, c'est pas ce qu'il faut, en fait. Je pense que c'est un grand résumé de ma carrière.
T'es attiré toujours par ce truc-là, c'est un aimant, quoi. Tu peux pas t'en détacher.
Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu envie d'essayer des trucs, de faire de la technique. Et puis, des fois, j'arrive à mettre les deux au même endroit. Et quand j'y arrive, je suis contente. Ça se résume beaucoup.
C'est l'équation de la vie.
Ouais. Mais du coup, après avoir fait de la QA, donc je vais aller partir en technique et là, je me retrouve, j'ai un commercial qui me propose une mission en banque pour aller faire de l'admin système et de l'opérationnel. Donc, exact opposé du précédent. Mmh. Bah, go, allons-y.
C'est ça, comme d'habitude, tu comme veux tester.
Je teste, j'y vais. Si ça se trouve, ça va me plaire. Et donc là, je me retrouve à faire, à bosser avec des développeurs et mon rôle, c'était de livrer en production leur taf, en fait, et de m'assurer que ça soit de bonne qualité techniquement. C'est-à-dire que ils avaient des tests fonctionnels, ils avaient tout ce qu'il fallait. Moi, j'étais là pour vérifier que on livrait un truc sécurisé en prod, correct, que les performances allaient pas trop subir la livraison, qu'il n'y allait pas y avoir de mauvaises surprises, quoi.
Ok, donc là, t'étais, on va dire, à la fin du processus, toi. T'étais pas pour la partie technique du dev.
Exactement. Là, j'étais vraiment en fin de processus. J'intervenais par moments en cours parce qu'on testait en staging, enfin en intégration tout. Donc, je commençais par livrer en intégration et il y avait pas mal d'allers-retours, mais ça restait plutôt de la fin de process. Un truc ultra technique. Et là, eh ben, en fait, très naturellement, je me suis retrouvée sans m'en rendre compte à faire des petites tâches de développement. Parce qu'il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est de faire les choses de manière répétitive.
C'est ça, de faire comme un robot, toi, faut que tu ailles voir, en fait, autre chose à chaque fois.
Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis retrouvée à scripter toutes mes actions. J'ai fait des scripts, j'ai fait des applications pour vérifier des trucs, j'ai essayé plein de choses. Puis à un moment, et ça, j'y ai quand même passé 3 ans, hein, il y a un moment, je me suis dit, le développement, c'était quand même cool. Bon, c'était ça que je faisais à l'école, ça m'avait bien plu. Et en fait, là, j'ai eu un enfant, donc congé maternité et compagnie. Je reviens après et j'ai eu de la chance parce que l'un des développeurs qui était un de mes clients avait besoin de mes compétences, mais dans son équipe de dev. Donc, hop, je passe de l'autre côté.
La passerelle.
La passerelle. Le nouveau truc, la passerelle, c'est souvent comme ça que je fais. Et là, j'atterris dans une équipe de dev où j'apporte des compétences d'opérationnel, justement. Ils voulaient justement remonter dans leur flux ce que je faisais. Ils voulaient le remonter plus tôt pour éviter de rencontrer les problèmes à la fin, en fait. C'est tout l'intérêt de la CI/CD comme on le fait actuellement, en fait. On parle d'une époque qui n'est pas toute récente. Hein. Donc, voilà, c'était le moment où j'ai revu un peu de dev. J'étais junior développement, j'avais 6 ans d'expérience, youhou, mais absolument pas en développement.
C'est ça, un peu de tout, mais pas de dev.
Ouais, c'est ça. Et c'est le moment où j'ai bossé sur un projet, et je pense que c'était un équivalent d'un projet de stage en termes de niveau technique. J'ai fait mon projet de stage avec quelqu'un de très bienveillant et qui m'a accompagné pendant quelques temps. Puis quand le besoin a été répondu, moi, je suis partie faire autre chose. Et à ce moment-là, je suis partie vraiment dans une ESN spécialisée dans le dev. Je suis allée faire du dev cloud.
Ok, donc là, à partir de là, c'est bon, tu t'es lancé, on va dire, à 100% dans le dev. Et tout le reste, on va dire, de tes expériences, c'était que du dev.
Quasiment, oui. Il y a toujours ces grands moments où on cherche à pousser les femmes vers des métiers moins techniques. Donc, il y a eu des petits moments dans ma carrière où on a essayé de me pousser vers du management, un peu plus de fonctionnel. On a essayé de m'envoyer en PO à un moment, parce qu'en fait, c'était plus pour moi. Il y a plein de trucs comme ça, donc j'ai pas mal lutté, mais à un moment, j'ai réussi à trouver ma place. Et en effet, j'ai fait dev, lead dev, j'ai fait du CTO à un moment, j'ai fait 2-3 trucs, mais clairement, il y a eu des petits moments où je luttais un peu contre la marée, oui.
Mais comment t'as réussi à lutter? Parce que c'est un peu compliqué des fois, tu es en entreprise, tu te sens poussé, tu dis peut-être qu'ils ont raison, mais toi non, t'étais déterminé jusqu'au bout, ce qui est bien, mais comment t'as résisté?
C'est le côté buté qui revient. C'est-à-dire que, en fait, j'ai à un moment réussi à déterminer ce que je ne voulais pas faire. Pas ce que j'avais envie de faire, parce que ça, comme je suis toujours très découverte et compagnie, découvrir des nouveaux trucs, c'est un truc que j'adore. Par contre, très rapidement, il y a des trucs que j'ai identifiés et que je n'aimais pas. Et ça m'a permis progressivement, au fil de chaque expérience, de prendre plus ou moins le truc que j'aimais et le truc que j'aimais pas, et de m'en servir pour aller dans une direction, dans la suivante. Alors, j'ai fait du yo-yo. En effet, si on devait décrire ma carrière, je suis partie, il y avait une cible, un point au milieu, c'était le dev, et j'en ai fait le tour par le grand tour, et j'ai fait des allers-retours. Puis un jour, j'ai atterri au milieu et j'ai fait « Ah, là, je suis bien !» Bon, ça a été long.
Ça a été long, mais au moins, comme tu dis, tu sais ce que tu ne veux plus et tu sais pas totalement ce que tu veux. Bon, ouais. Tu aimes bien tout tester, mais tu sais ce que tu ne veux plus. Donc, c'est important aussi d'aller voir un peu ailleurs.
C'est ça. Et j'ai aussi, au passage, réussi à déterminer ce pourquoi je suis faite et compétente. Enfin, j'essaye en tout cas. C'est tout ce qui est stabilisation d'une application. Le MVP, le POC, jeter rapidement du code, il y a des gens qui sont très doués là-dedans. Moi, je suis très mauvaise, en fait. Et j'ai essayé, justement, de faire ce genre de choses, et ça a été à chaque fois des échecs dans ma vie. Mon truc, c'est l'application qui est déjà en place et qu'il faut améliorer.
C'est ça. Enfin, tu préfères quelque chose qui est, on va dire, sur la durée que sur l'instant où on va juste tester, et on va dire un peu bâcler le travail, peut-être.
Même pas forcément. C'est juste ma manière de penser qui va pas dans ce sens-là. Et à une époque, j'ai créé une start-up avec deux autres personnes. Et c'est là où ma manière de réfléchir n'était juste pas la bonne. Et je m'en suis rendu compte, en fait, après coup, parce que j'ai toujours mon petit côté un peu têtu, qui fait que j'ai quand même essayé et insisté. Mais néanmoins, j'ai essayé ma manière de faire et en fait, je réalise après coup que j'ai perdu beaucoup de temps à vouloir absolument faire une application stable alors qu'on savait même pas encore vraiment quel produit on voulait faire en fait. J'ai perdu du temps.
C'est ça, mais de toute façon, ces trucs-là, c'est avec l'expérience que tu peux t'en rendre compte. Sur le coup, c'est impossible de dire que c'est pas la bonne idée, quoi.
C'est ça, exactement.
Quand on est dev, on pense que dès le premier jour, on peut faire quelque chose de stable, bien, bien ficelé, tout ça. Mais après, avec l'expérience, tu vois tout ça.
Ouais, clairement. Ouais. Et aussi, j'avais remarqué au fil du temps, en fait, toutes mes expériences précédentes, j'avais un cahier des charges en ESN, où en tout cas, le product manager savait exactement où il voulait aller. Il y avait juste besoin pour lui faire le comment, et lui faire le code, les trucs comme ça. Donc ça, c'est moi, ça, c'est, je sais faire le comment. Mais c'est où aller que je ne savais pas faire. Et donc voilà, ça a été le raté, mais du coup, j'ai appris des choses en échange.
Oui, c'est le plus important. Donc, t'enchaînes les expériences dans le dev. Et l'entreprise où tu es actuellement, ça fait combien de temps que tu y es?
J'y suis depuis février, donc quelques mois, on va dire.
Quelques mois?
Ouais. Okay, bientôt un an.
Lead dev directement, tu es arrivée ou
oui.
D'abord développeuse?
Non, tout à fait, je suis arrivée directement en tant que lead dev. Il recherchait quelqu'un qui avait plus d'expérience pour justement amener... En fait, justement, ma spécialité, c'est la stabilisation et l'anticipation des problèmes. Donc, ils avaient besoin dans cette équipe de quelqu'un qui ralentisse un peu les autres pour permettre de vérifier qu'on va au bon endroit, en fait.
Ok. Donc, Shine, quand tu arrives à Shine, c'est quoi? C'est le produit, il est déjà bien lancé? C'est déjà un gros truc?
Ouais, il est bien lancé. En tout, il y a 200 personnes dans la société. Il y a, je sais plus combien on était de dev quand je suis arrivé, peut-être 50. Donc, ça commence à faire une belle société, quoi, on va dire. C'est plus la petite start-up qui démarre, c'est celle qui a des fonds. Ils ont été rachetés par la Société Générale quelques années avant. Il y a de l'accompagnement. Ils sont en train de devenir établissement de paiement, parce qu'il y a des nuances en banque à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place dont ils n'avaient pas encore besoin avant. Et tout ce qui est légal, Quand on devient une vraie banque au sens pur, il y a un côté légal. Vérifier qu'on n'a pas de transaction envers des terroristes. C'est des trucs tout bêtes, mais ça, c'est des trucs à vérifier dès qu'on devient un peu plus certifié, quoi. Donc là, c'est là où moi, j'interviens, en fait, en mode, bah, OK. Moi, j'ai tendance à considérer que l'expérience, c'est juste des exemples différents que tu vois dans la vie. Et en 18 ans, j'en ai vu beaucoup. Donc, j'ai plein d'exemples sur lesquels m'appuyer, m'inspirer, et je brode autour de mes exemples.
Non, mais je prends totalement ton analogie, parce que c'est vrai que quand tu fais même un projet seul, bah, c'est un exemple, quoi. C'est que tu vas te retrouver peut-être dans un boulot, tu peux regarder ce truc-là, et ça t'aidera.
Oui.
Et du coup, c'est quoi le boulot d'un lead dev? C'est quoi une journée d'un lead dev?
Alors ça, c'est une question, ça dépend de chacun des leads. Moi, j'y mets plusieurs choses. Mais il y a des gens qui vont y mettre le côté référent technique. Moi, je vais y mettre plus de choses. J'aime, et c'est dans ma manière d'être, accompagner les gens. Mon objectif, c'est que le client soit heureux. Ok. Pour ça, je considère qu'il n'y a pas que mon taf, mais il y a tout le taf de l'équipe. Et donc, progressivement, je vais essayer d'apporter des petits trucs un peu tout autour de moi aux gens qui en émettent le besoin. Donc, ça veut dire que mon job au quotidien, c'est par exemple relire le code de quelqu'un de plus jeune, en termes d'expérience, et lui dire, bah ça, je pense que tu pourrais le faire plutôt comme ça. L'avantage, c'est que c'est plus évolutif. Ou au contraire, comme ça, on exprime mieux le métier et du coup, on le retrouvera mieux, et ainsi de suite. Et plein de petits trucs du quotidien, en fait. Et j'apporte beaucoup ça sur toute la relecture de code. Je vais aussi faire de la relecture de ce qu'on appelle des design docs chez nous. C'est l'anticipation des futurs projets où on commence à réfléchir à comment on va répondre à ce besoin. On va réfléchir à de l'architecture, à du fonctionnel, à tous les points bizarres. Et c'est là où moi j'arrive, où je pose des questions. Je regarde si on n'a pas raté des points. Il y a des trucs qui me font réagir. Ah tiens, ça par exemple, peut-être que ça va toucher au RGPD. Voilà, c'est en fait...
Tous les trucs qu'on voit pas directement, quoi. Tous ces petits détails, on va dire.
C'est ça. Mon job, c'est anticiper les problèmes, aider les autres à les anticiper si je peux aider. Lever la tête, regarder autour de moi et regarder ce qui se passe. C'est un peu le suricat, mon job. Je regarde ce qui se passe. Ah tiens, il y a un truc intéressant dans l'équipe d'à côté. Ah, peut-être que ça peut nous intéresser, nous aussi. Voilà, c'est mon job, en gros. Ça se résume beaucoup à ça.
Ok, en gros, tu regardes loin ce qui peut se passer, tu regardes ce qui se passe maintenant et tu aides l'équipe à avancer dans ce sens-là.
C'est ça, exactement. J'ai tendance à essayer d'aller chercher aussi des informations beaucoup auprès du produit pour aller chercher, en fait, eux, ils sont en avance de phase, souvent par rapport au moment où les développeurs développent l'application. Donc, je vais aller chercher ce qui se passe dans leur tête et où ils prévoient d'aller pour les 6 prochains mois, par exemple. Alors, pas plus, parce que des fois, on prévoit plein de trucs qu'on ne va jamais. Ça arrive très souvent, même. Mais donc, les 6 prochains mois, ils sont à peu près fermes. Ça dépend des sociétés. C'est là où la toute petite société, c'est pas vrai, c'est pour ça que j'y arrive pas. Mais donc, dans les sociétés un peu plus grosses, c'est assez vrai. Ils savent où ils veulent aller à court terme, en tout cas. Et du coup, c'est là où je peux arriver en disant, bah, ce développement, on pourrait le faire de telle manière, ça permettra la deuxième évolution qu'on a prévue dans 2 mois. Et c'est ce genre de choses où j'apporte un petit plus, en fait.
Ok, donc on pourrait dire de la vision, de l'accompagnement.
Ouais.
Énormément d'infos, quoi. Connaître le projet.
Oui, alors ce qui est marrant actuellement, c'est que c'est pas moi qui ai la compétence fonctionnelle, parce que je suis assez récente sur le projet, en fait. C'est les autres. Donc c'est aussi écouter n'importe quelle conversation autour de moi pour absorber une information fonctionnelle qui passe. Tout m'intéresse, en fait. J'absorbe ce qui passe autour de moi.
Ça fait pas très longtemps, donc il faut tout prendre là.
Il faut tout prendre, ouais.
Et du coup, toi, en tant que lead, tu participes aux entretiens de recrutement ou pas?
Alors, oui. Non, c'est ce qui est. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais c'est prévu. Si je peux, je participe aux entretiens. C'est un truc que j'aime faire. Pas seulement pour l'intérêt de la société, de l'entreprise où je suis, mais parce que j'aime comprendre comment les gens pensent. C'est un truc qui est important pour moi. Et j'aime bien, en entretien, essayer de voir le chemin de réflexion que l'autre a pris, qui est peut-être pas le chemin évident, mais il arrive quelque part, et j'aimerais savoir comment est-ce qu'il a fait. Et c'est ça qui m'intéresse chez l'être humain, en fait. C'est okay. le petit parcours intellectuel, quoi.
Donc demain, enfin, si quelqu'un a un entretien avec toi, ce serait plus, on va dire, tu jugerais plus la manière dont tu réfléchis pour arriver à régler le problème.
C'est ça, exactement. La manière dont il réfléchit, s'il y a des trucs que je peux lui apporter aussi en entretien, des fois, j'essaye. Parce que il n'y a pas de raison qu'un entretien, ça ne soit pas donnant-donnant. Donc, j'essaye d'apporter des petits trucs. Et ouais, je regarde la manière dont la personne réfléchit, comment elle récupère ses informations, comment elle traite son truc. Et puis, son code n'est pas forcément optimal, mais ce n'est pas grave. Il y a des code review pour ça, en fait. C'est pas le plus important dans l'immédiat. Le plus important, c'est est-ce qu'elle a compris ce qu'on fait.
Ok. Et du coup, enfin, tu fais du mentorat, t'aimes bien accompagner. Comment tu t'organises avec le boulot à côté, faire ton mentorat? Comment tu t'y prends?
Alors, en général, je fais beaucoup de mentorat dans mon équipe ou même dans la société où je suis tout court. J'ai proposé il y a quelque temps du mentorat via Twitter. Alors, j'ai eu plein de réponses, puis finalement, les personnes se sont désistées au dernier moment. Donc, dommage. Mais au final, il s'avère qu'il y a des gens qui me posent des questions, qui viennent chercher des infos que j'apporte via un Discord, via des choses comme ça, un Discord technique. Et en fait, j'essaye de donner des petits trucs. C'est toujours la même chose. Là où je vais chercher à apporter beaucoup plus, c'est quand, en fait, les gens, je vais essayer de les connaître mieux. Parce que pour moi, tout le jeu du mentoring se fait sur la relation de confiance, en fait. Ils doivent avoir confiance en moi et moi, je dois avoir confiance en eux. Et on doit être honnête l'un avec l'autre et discuter et tout ça. Donc, j'essaye de déclencher d'abord ça. Et une fois que j'ai réussi à déclencher ça, le moindre problème de la personne, si elle a envie de m'en parler, elle m'en parle, elle aura aucun jugement en échange. Et moi, je vais essayer de lui trouver une réponse. Et la réponse, ça peut être « ton truc, c'était parfait ». Ou au contraire, ça, t'aurais pu faire mieux à ce moment-là.
C'est ça, c'est vraiment une relation humaine avant tout. C'est pas juste du technique, je te donne du code, c'est vraiment une relation humaine.
Non, c'est clairement une relation humaine, c'est de la méthodologie, c'est des petits trucs. Il y a un truc que j'ai fait avec une personne en reconversion il y a quelques années. J'ai établi une sorte de liste de tous les sujets qu'il lui fallait pour arriver à faire son métier correctement. Ça couvrait aussi bien du développer un composant React pour l'application front que comprendre une fonctionnalité demandée par le produit, la découper, suivre les tests, bref, de la méthodologie, du développement, de la compréhension à tous les niveaux. Et ce truc-là, je lui ai demandé de son côté d'essayer de s'évaluer dans la liste. Du coup, il se donnait une note de « je ne sais pas » à « ouais, je m'en sors, il n'y a pas de souci ». Et moi, de mon côté, je faisais la même chose en aveugle. Et après, on compare les résultats. Il en est ressorti deux choses intéressantes. La première, c'est que la personne se sous-estimait énormément, en fait.
Toujours, c'est souvent ça.
Ouais, exactement. Et du coup, il a eu le moment où il s'est dit « ah, mais ça, tu penses vraiment que je peux y arriver ?» Et il a essayé. Et il a réussi. Et c'était, ça lui a fait du bien sur certains sujets où il avait besoin de ce coup de pouce pour lui dire « mais non, mais gars, tu peux, en fait ». Et ça, c'était important. Et l'autre truc qu'on a vu, c'est qu'à ce moment-là, on se posait la question en se disant « on comprend pas pourquoi tes développements bloquent sur certains points. Peut-être que tu as besoin d'une formation, notamment, on partait sur des formations en React. » Puis en fait, à la sortie du tableau, en fait, c'était pas du React qu'il avait besoin d'apprendre. C'était de la méthodologie d'analyse de fonctionnalités et de comprendre ce qu'il devait faire pour faire le développement qu'on lui demandait de faire, en fait. C'était de la méthode.
C'est ça, découper son problème, c'était pas le technique qu'il lui fallait, c'était plus avoir son problème ou partir.
Ouais, c'est ça. C'était avoir représenté visuellement dans sa tête l'état d'avant l'état actuel, l'état où il voulait arriver, et tenter de se faire un chemin au milieu de tout ça pour amener son développement au bon endroit, en fait. Et c'était ça qui lui manquait.
Non, mais c'est vrai que quand, enfin, moi, je suis junior, je sais que, enfin, je me sous-estime souvent. Et comme tu dis, la semaine dernière, j'ai eu un petit one-one avec ma manageuse où je devais lister, on va dire, un peu mes compétences. Et il y a des choses où je me suis mis pas bon, alors que elle me dit, mais non, mais ça, tu l'as fait pendant tant de trucs. Et au final, elle me dit, mais, enfin, c'est toi l'expert dans l'équipe sur ça, puisque t'es le seul à avoir bossé dessus. Mais c'est vrai que des fois, t'as besoin de ce petit coup de cette petite parole qui va te rassurer, qui va te dire, dans ta tête, tu vas te dire, non, mais en fait, ça va, je peux le faire en vrai.
Ouais.
Mais ouais, c'est super important, cette relation humaine-là en mentorat, je pense.
Oui, clairement. Et accessoirement, moi, ça a un effet positif sur moi. Parce que moi aussi, je me sous-estime beaucoup. J'ai un syndrome de l'imposteur qui est assez redoutable. Et en fait, avoir quelqu'un en face qui me dit « Non mais Céline, tu m'as expliqué un truc. J'ai compris. Et maintenant, je m'en sors. Et bah, moi, ça me fait du bien.
» Bah ça, tu sais, ça fait plaisir à entendre aussi qu'une lead aussi peut avoir son syndrome de l'imposteur. Parce qu'on pense souvent, en tant que junior, qu'une fois que tu as de l'expérience, tu n'as plus ça. Mais ça rassure, quoi.
Ouais, alors on m'a dit ça rassure mais pas complètement. Parce que au bout de 18 ans, j'ai toujours des doutes.
Mais c'est des doutes différents, ouais, je pense.
Ils ont un peu évolué, c'est du ah bah ça t'aurais certainement pu voir le problème plus vite.
Non, mais après moi je pense que c'est une bonne chose quand tu as toujours ce petit syndrome là, c'est que déjà, t'es humble, c'est que je suis pas le plus fort, t'es pas la plus forte ou quoi. Et je trouve ça, enfin, toujours bien d'avoir ce petit syndrome-là.
Ouais, il est, celui-là, ouais, il aide à progresser, en fait, dans sa vie. Parce qu'en fait, c'est vrai, il y a toujours quelqu'un qui en sait plus et qui est capable de te faire grandir sur un sujet, en fait. Et, on peut tous se faire grandir. Et, c'est un truc que, à une époque, j'avais une équipe avec un stagiaire sorti d'école tout frais. Et on était en réunion sur un sujet, puis je le voyais qu'il disait pas un mot. Après, je suis allée discuter ensuite avec lui en lui disant, mais hésite pas à proposer, parce que nous, on est tellement habitués à ce qu'on fait, qu'on a arrêté de réfléchir sur certains sujets. Si ça se trouve, ton avis est nettement plus pertinent que le nôtre sur certains points, parce que t'arrives avec un avis autre.
C'est ça, un œil nouveau.
Un œil nouveau, tout simplement. Et en effet, les problèmes suivants, c'est lui qui nous a proposé la solution. Il nous a pas proposé la manière de le faire, mais il avait l'idée pour envoyer dans la bonne direction, en fait. C'était le déclic, quoi. Et ça, c'est parce qu'il n'avait pas travaillé encore sur le projet, qu'il était... Voilà. Et en fait, l'expérience, ça fait pas tout. C'est pas parce que tu croises quelqu'un qui a, je sais pas moi, 20 ans d'expérience que c'est un dieu dans son métier. Il y a des choses qu'il va savoir parfaitement bien.
C'est ça.
Et d'autres, non. Et du même ordre d'idée, moi, je suis périmée sur certains sujets. Je le sais. Il faut que je me mette à jour.
Non, mais c'est important de le dire. C'est que même avec l'expérience, il faut toujours rester, on va dire, humble. Et on peut tous apprendre de chacun.
Totalement, oui.
Après toutes ces expériences-là dans le monde de la tech, qu'est-ce que tu en vois, toi, comme point positif?
Alors, des points positifs. J'ai vu au fil des années une amélioration au niveau du sexisme. C'est à noter, c'est important. Au début, quand j'ai commencé, c'était naturel. Même moi, je trouvais ça normal. On m'a dit des fois, Céline sourit plus, ça sera plus agréable pour l'équipe. Ou, eh bien là, tu pourrais te taire, en fait, ça pourrait être mieux. Mmh. Et en effet, bah, si en souriant, ça rendait tout le monde heureux, je souriais. Voilà, et je trouvais ça normal. Et en fait, non.
Ben, c'est sûr. C'est que quand t'es arrivé aussi, c'était un milieu, on va dire, très masculin. Donc, je pense aussi un peu intimidant d'arriver dans ce secteur-là et de dire non, d'essayer de s'interposer.
Ouais. Et en plus, moi, j'avais quasiment un défaut à ce niveau-là, mais j'avais commencé par de l'électronique. C'était exactement la même situation, en fait. Ce qui veut dire que dès ma première, j'étais déjà quasiment dans une classe d'hommes. On était 4 femmes, c'était énorme. Ensuite, j'ai atterri dans les sections suivantes, j'étais toute seule, en fait. Et je m'y suis habituée à ce moment-là.
Ouais, c'est ça, pour toi, c'était normal, c'était l'expérience, t'avançais comme ça.
Ouais, je m'y faisais les blagues nulles, je les tolérais. Quand elles étaient vraiment trop nulles, j'essayais juste de faire pire pour qu'ils arrêtent d'en faire. Donc, tu vois, c'était un peu ma méthode qui n'était pas forcément la meilleure.
Non, mais c'est une bonne chose à entendre, d'entendre que ça s'est amélioré, quoi.
Oui, ouais, clairement. Là, alors, j'ai peut-être un exemple qui est complètement fou sous les yeux, hein, mais Shine fait extrêmement attention à tout ça. La position des différentes personnes, au sens large du terme, est importante. Ils font attention à absolument tout. Femmes, racisées, handicap, j'en oublie, mais ils font absolument attention à tout le monde. Un truc tout bête que j'avais vu, par exemple, au séminaire, ils n'imposent pas de forcément faire des chambres que de femmes ou que d'hommes. Ils laissent les gens se débrouiller.
Ça, faites comme vous voulez, quoi.
Ouais.
Mais c'est vrai que, enfin, Shine, j'ai beaucoup regardé cette boîte-là. Elle me rappelle beaucoup les entreprises d'ici en Suède. C'est que, enfin, je retrouve, on va dire, le même esprit dans cette entreprise-là. Donc, Shine, elle est dans ma liste le jour où je serai en France. Je sais que, enfin, je vois un peu l'état d'esprit et, enfin, c'est un truc qui me correspond maintenant. C'est que j'aime bien travailler dans ces environnements-là où tu te sens, voilà, t'es à l'aise, quoi.
Oui, c'est ça. Et on essaye de faire les choses bien. On essaye de faire les choses en démocratie, ce qui est très rare, en fait. Quand quelqu'un dans les devs a une idée, il la soumet aux autres. Et les autres l'écoutent, votent pour, votent contre. Et puis, il y a un truc. Et des fois, on part dans une direction et on essaye un truc. On fait attention à pas mal de choses, oui.
Non, c'est super important, ça. On y passe beaucoup de temps au travail, donc si ça peut être très agréable, c'est pas plus mal, quoi.
Ah oui, c'est ça, exactement, oui.
Donc, ouais, avantage, tu m'as dit le sexisme qui s'est amélioré.
Oui.
Et après, niveau, télétravail, tu préfères, toi, être sur site ou à la maison?
Non, moi, je fais partie des gens pour qui le Covid a été une révélation, si tu vois ce que je veux dire. C'est pas valable pour tout le monde, mais pour moi, le télétravail, c'est un truc qui m'a changé la vie et je suis en remote permanent. Je vais au bureau à Paris 2 jours par mois en fonction des mouvements des autres de mon équipe et on se retrouve là-bas, on se fait coucou. Puis...
C'est plutôt cool.
Ouais, c'est le plaisir de voir les autres, quoi.
C'est ça, c'est vrai que c'est un plaisir quand t'es pas obligé d'être là. Moi, pareil, je viens au bureau une fois dans la semaine, mais c'est moi qui décide avec les autres. On se met un jour. Et ouais, je trouve que le Covid a été, enfin, avantageux quelque part pour les travailleurs, quoi.
Alors, c'est pas entièrement vrai parce qu'il y a une de mes sociétés précédentes. La première chose qu'ils ont tenté de faire à la fin, c'est de ramener tout le monde à nouveau au bureau. Okay. Est-ce qu'il les a limités? C'est le nombre de places à la cantine où ils ne pouvaient pas mettre tout le monde. Et voilà, c'est complètement... ça paraît fou, en fait. Ils ne pouvaient juste pas asseoir suffisamment les gens près les uns des autres pour être sûr que tout le monde puisse manger. Donc, ils se sont dit, on va faire rouler les gens, on ne va pas tous les faire venir en même temps. Et c'était contre-intuitif.
C'est ça. Tout simplement, proposer un peu de télétravail, ça fait plaisir à ceux qui aiment et ceux qui veulent venir au bureau. Viennent,
c'est ça, quoi. Exactement.
Comme tu as dit, la démocratie, c'est que... chacun fait un peu ce qu'il veut, quoi.
C'est le cas de mon contrat. J'ai juste l'obligation d'aller quelques jours au bureau de temps en temps. Et sinon, j'ai une enveloppe tous les mois à utiliser, si j'ai envie. Je peux l'utiliser en cowork dans ma ville avec des collègues. Je peux l'utiliser pour faire mes allers-retours et l'hôtel et compagnie. Ou je peux ne pas l'utiliser.
Ah, mais c'est sympa, ça. Ça facilite.
Je fais comme j'ai envie. Et il y a des gens qui sont en présentiel au bureau. Ils y vont parce qu'ils trouvent ça bien. Y en a d'autres qui habitent juste à côté des bureaux qui sont en remote parce qu'ils aiment pas le bruit. Et c'est OK pour tout le monde, en fait.
Non, mais c'est important que chacun se sente bien pour faire son travail. Pour moi, c'est l'élément le plus important. Hein. C'est quand tu te sens bien dans une entreprise, t'es écouté et tu peux qu'être productif, quoi.
Exactement.
Il n'y a pas de secret.
C'est ça, ouais. Un truc qui te convient, quand les gens sont heureux, tout va mieux, en fait.
C'est totalement ça. Et du coup, niveau point négatif.
Alors, moi, je fais partie des gens, c'est plus en termes de techno et de langage. J'aime les choses un peu fiables. J'ai commencé par des technos où il y avait des typages forts. type Java et compagnie. Et là, maintenant, plus le temps avance, et en fait, il y a eu un moment où il fallait que je trouve un job et j'ai accepté de partir vers du TypeScript. Voilà, c'était pas forcément ce que j'avais envie de faire à ce moment-là, mais il fallait manger. Voilà, il fallait manger, donc il fallait de l'argent. Et du coup, j'ai trouvé un job dans une techno qui était fréquente et je suis partie là-dedans. Il me manque un truc. Il me manque un truc qui vérifie derrière fortement. Moi, j'ai fait du Haskell à un moment. Haskell, c'est un langage qui est ultra fortement typé et qui vient du monde fonctionnel. Et clairement, il y a des trucs qui me manquent, en fait, quand j'en fais pas.
C'est ça, c'est que c'est un gros changement quand t'arrives sur TypeScript et que t'as connu tous ces langages-là avant.
Alors, moi, je me dis, c'est toujours un peu mieux que JavaScript parce qu'au moins, j'ai des trucs qui vérifient que je fais pas n'importe quoi. Mais en effet, il me manque un truc. Alors ça, c'est mon avis. Il y a des gens qui sont très ravis de la situation. Moi, c'est le mien.
C'est ça. De toute façon, c'est propre à chacun, ces trucs-là. On peut pas décider pour tout le monde.
Oui, tout à fait.
Ça marche. Et est-ce que tu aurais des petits conseils pour un junior qui souhaiterait se lancer dans le monde du dev?
Qui souhaiterait se lancer dans le monde du dev? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui hésitent et qui n'osent pas. Moi, j'aurais envie de dire, ose. Si tu as des questions, pose-les. S'il y a des relous qui te jugent parce que tu as posé une question qui leur paraît bête, ces gens-là, il faut plus leur parler. Par contre, il y a des gens qui vont venir te répondre et qui vont essayer de t'aider. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Et pose des questions. Admettre qu'on ne sait pas, c'est tout à fait acceptable parce que ça permet à l'autre de te fournir une information que tu pourras savoir ensuite.
C'est vrai.
Voilà, c'est l'une des premières bases. Ensuite, moi, j'aurais tendance à conseiller, mais c'est parce que je pense comme ça. Quand tu as un développement à faire, au-delà du simple rajouter un champ à un endroit ou des trucs comme ça, mais faire un dessin avec des boîtes et des flèches, ça, c'est le truc que j'aime faire. Bon, c'est moi qui fonctionne comme ça, hein, je l'admets. Je parlerai pas d'UML parce que UML, c'est une norme, c'est contraignant. Donc là, mets des flèches et des boîtes.
Un petit croquis vraiment simple avec comment ta fonctionnalité doit marcher, tous ces trucs-là.
C'est ça, ouais. Et puis, tu fais une appli web, n'hésite pas à te représenter le chemin entre les écrans aussi, si tu as envie. Tu fais du code plus back-end, n'hésite pas à te représenter le moment où ton bout de code doit être appelé. Avec des boîtes d'abord premier très haut niveau, puis progressivement tu rentres un peu plus dans le détail et en fait tu vas savoir où se trouve le truc que tu dois faire et ça va t'aider en fait. Et chaque fois que tu te poseras une question, tu pourras regarder ton dessin et faire ah oui c'est vrai.
Mais moi je fonctionne comme ça, je suis très visuel, j'ai un cahier avec plein de croquis parce que pour moi c'est une des meilleures manières de me retrouver rapidement.
Ouais, c'est ça, exactement. Alors, ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui se perdent dans des dessins. Donc, il faut trouver son truc. Et il y avait un dernier point que je voulais citer et que j'ai oublié. Dommage. C'est clairement toujours visualise, pose tes questions. Ouais, bref. Si ça revient, il reviendra plus tard.
Ça marche. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, Céline? Un petit, un petit conseil, un petit, petite citation, un petit, je sais pas.
Alors moi, il y a un truc que je fais régulièrement, parce que moi, je suis surtout une développeuse back, ok. Des fois, je fais du front. Et comme je suis pas toujours très à jour là-dessus, je tape le nom de ma techno, React par exemple, et Awesome derrière, AWESOME, et tu trouves quasiment toujours une liste de tous les composants que les gens ont fait et des trucs qui marchent. Et okay. Ça, c'est fabuleux. Tu l'as pour React, Vue, Svelte, ce que tu veux, tu vas pouvoir le trouver.
Je note ça. Voilà. Je note ça, c'est très intéressant.
Et ça, c'est ma ressource. C'est
React
mon truc.
Awesome. Ok, React Awesome. Je vais tester ça. Moi qui ai toujours besoin de composants, tout ça, je vais aller regarder ça. En tout cas, c'était un super moment, Céline. Ça fait plaisir.
De rien. Ça m'a fait plaisir. Moi, je parle, hein, c'est facile.
Non, mais ça fait plaisir que tu prennes le temps de venir expliquer un peu ton parcours, raconter, et qu'on voit enfin un peu comment ça se déroule à cas d'un lead et ce qui a fait un peu au quotidien. Donc, je te dis un grand merci.
Merci à toi.
Et je te dis à la prochaine, Céline.
Yeah, tout à fait.
Merci.
Merci, Manso.
Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Parcours Tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, mangejs. À bientôt.